RCF.
À la fois fascinant et terrifiant, obstacles et chemins, l'océan et la mer sont des éléments que l'homme a dû apprivoiser pour les comprendre et pour les traverser. C'est grâce au perfectionnement des bateaux, à l'ingéniosité des scientifiques et surtout au courage des marins que l'homme a pu aller de l'autre côté des mers et découvrir de nouveaux mondes. François Bellec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier de marine, vous êtes ancien président de l'Académie de marine, vous êtes peintre et écrivain, toujours en lien très étroit avec le monde de la mer, et vous êtes également vice-président de la Société de géographie. Vous publiez...
J'ai dirigé le musée de la marine pendant 18 ans aussi,
hein,
ce qui est
évidemment
quand même bon.
À Paris.
À Paris, bien sûr.
Vous publiez donc le tome 1 d'une histoire universelle de la navigation aux éditions de Monza. C'est une œuvre magistrale que nous allons donc évoquer dans cette émission à travers l'histoire de la navigation. Nous allons essayer de couvrir la période qui va de l'Antiquité jusqu'au 15e siècle à peu près, avec les grandes découvertes. Les sources, évidemment, sont innombrables. Les archives remplissent les bibliothèques et les musées. L'iconographie aussi est énorme. Comment est-ce qu'on s'attaque à une histoire universelle de la marine? Par quel bout est-ce qu'on prend les choses?
En fait, je suis rentré là-dedans un peu accidentellement. Quand j'ai pris la direction du musée de la marine, je ne connaissais pas grand-chose sur l'histoire ni l'héritage maritime. Je suis allé voir les grands maîtres de l'histoire maritime à la Sorbonne, le professeur Meyer, le professeur Moulin du Jourdain, qui étaient les couverts que dans le monde entier, il y avait eu des initiatives, que l'Occident finalement était parti très tard. Mais c'était lui qui avait réussi à faire une navigation conquérante. Et puis, je trouve que c'était une aventure humaine fantastique.
Les archives, encore une fois, sont innombrables.
Alors, on trouve des documents dans la littérature antique, oui. On trouve des documents en Chine, très peu de documents arabes. Les Scandinaves ont un fond intéressant. Et le Portugal, qui pratiquement a tout inventé pour l'Occident, a perdu beaucoup de ses archives dans le séisme de Lisbonne en 1755. Alors, on sait des choses, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on a énormément de documents. Donc, il faut, à partir de tout ça, faire des synthèses, trier...
Reconstituer les choses.
C'est un sujet passionnant.
Est-ce qu'on peut dire que l'homme a toujours eu envie ou besoin d'approcher de la mer, de l'océan, d'essayer d'apprivoiser cet élément?
Oui, tout à fait. Enfin, dès que l'homme s'est aperçu qu'en montant sur un tronc d'arbre, on flottait, qu'en agitant les mains, ça avançait, qu'en dressant une palme, ça prenait un peu le vent, il a découvert un moyen de transport extraordinaire. C'est pas par hasard que les Vikings d'un côté et les Phéniciens de l'autre ont été des précurseurs et de très grands navigateurs. Ce sont deux pays qui sont montagneux, où la circulation terrestre était très difficile autrefois. Et donc la voie maritime a été la voie naturelle des Phéniciens le long des monts du Liban et des Vikings le long de la Scandinavie. Donc l'homme a tout de suite compris l'intérêt des navires en améliorant la pirogue élémentaire, le faisceau de joncs, les outres gonflées d'air, etc. Il a s'est mis à fabriquer des bateaux élémentaires, puis de plus en plus importants. Des bateaux qui, très curieusement, tout autour du monde, ont eu la même forme, parce qu'il n'y a pas 40 solutions pour fabriquer un bateau. Il faut qu'il ait une certaine forme pour tenir sur l'eau, qu'il puisse avancer. Il doit être pointu d'un bout, il faut mettre un gouvernail de l'autre côté. Pratiquement 4000 ans avant notre ère, on trouve des graffitis sur les rochers du haut Nil, qui montre des bateaux élémentaires, et on trouve exactement les mêmes sur des rochers en Scandinavie laissés par les populations pré-vikings. Ce qui est assez merveilleux, c'est ça, c'est que l'homme a toujours conçu des bateaux de la même façon.
RCF, Véronique Alzieux.
La voile date de quelle époque?
Alors la voile arrive aussi, dès le 4e millénaire, il y a un embryon de voile, et on trouve sur dans des tombes égyptiennes de 1500 avant Jésus-Christ, des dessins de bateaux phéniciens, remarquablement dessinés. Les phéniciens étaient devenus les transporteurs de la Méditerranée. Ils transportaient l'Égypte d'Alexandrie à Ostie, c'était... Donc, 2 millénaires avant notre ère, le bateau existait et n'a été qu'amélioré jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce qui pousse l'homme à prendre la mer, à s'engager sur les eaux?
Alors, le cabotage maritime est universel. En Méditerranée, la Méditerranée a été irriguée tout autour par un flux de navigation au cabotage. Fernand Braudel.
Qu'est-ce que vous appelez le cabotage?
Le cabotage, c'est la navigation en vue de terre, je dirais. Fernand Braudel a parlé du fleuve Méditerranée, qui décrit bien ce phénomène. Il n'y a pas tellement besoin de traverser la Méditerranée en droiture. On pouvait longer le littoral. D'ailleurs, les premiers périples écrits donnaient des notions de distance, de points remarquables, en amer remarquable, en port remarquable. Donc, les premiers peuples ont tous été des peuples naviguant au cabotage. Et ce qui a lancé la haute mer, c'est la route de la soie. La route des épices et de la soie.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est véritablement ce qui est le déclenchement de la navigation hauturière, c'est-à-dire en pleine mer. Ça a commencé dans l'océan Indien, vers 750. Ben, on s'est aperçu que, après les grandes invasions barbares qui rendaient les routes très dangereuses, en raison du grand nombre de brigands des grands chemins et puis de seigneurs qui demandaient des taxes, on s'est aperçu que finalement la voie maritime c'était pas mal, c'était dangereux aussi, mais c'était un moyen d'abord de mettre sur un seul bateau l'équivalent de plusieurs centaines de chameaux et de transporter des choses sans rupture de charge, sans payer des taxes à personne, en affrontant éventuellement du mauvais temps. Donc la route maritime de la soie a été la première grande route maritime qui partait de Chine, de Changzhou, que les Arabes appelaient Zaytoun et que les Portugais appelé Sétim, c'est de là que vient le mot satin, et elle allait jusqu'au fond de la mer Rouge et du golfe arabo-persique, où elle était reprise par des caravanes qui l'amenaient en Méditerranée.
Il a fallu adapter les bateaux pour cette nouvelle forme de navigation au long cours?
Ben, c'est un peu le contraire, c'est quand les peuples ont été capables de construire des vrais bateaux qu'ils ont pu se lancer en haute mer. Les Chinois, par exemple, ont attendu le milieu du XIIIe siècle pour se lancer en haute mer, mais ils ont construit à ce moment-là des bateaux qui surclassaient les bateaux arabes.
Pourquoi?
Parce que leurs bateaux étaient mieux construits, ils avaient plus de bois. La possibilité d'avoir des bois de longue dimension a conditionné la construction navale. Les bateaux arabes étaient des bateaux cousus, des tas de petits morceaux cousus. C'était pas très solide, ça tenait pas tellement la route. Alors que les Chinois ont construit des bateaux qui avaient des cloisons étanches très robustes, très solides, très gros. C'est eux qui ont remplacé le monopole persan de la route maritime à l'arrivée des Song du Sud. On est vers 1250. Et les Chinois, à ce moment-là, sont rentrés dans l'océan Indien et ont été à leur tour les grands transporteurs. Cette route de la soie, ça a été vraiment l'une des deux grandes motivations des découvertes.
Quelles sont les conséquences, justement, de cette nouvelle route qui s'ouvre et qui offre des possibilités extraordinaires?
Ben, c'est le début de ce grand commerce international. Vous demandiez tout à l'heure ce qui avait poussé les peuples vers la mer. Bien, il est quand même intéressant de constater que la grande majorité de la population terrestre actuellement vit à proximité de la mer et que le bateau continue à transporter 95% des transports du monde entier. Le bateau a été le moyen de connecter les peuples, de transporter les cultures, de transporter les religions. L'islam, le bouddhisme se sont transportés par voie maritime.
Et le christianisme aussi, finalement.
Et les Portugais, plus tard, ont utilisé leurs bateaux pour aller christianiser l'Asie
et l'Inde. Oui. Vous parliez de conditions dangereuses. Quels étaient les principaux dangers à ce moment-là?
D'abord, la mer a fait peur très longtemps, au point d'ailleurs que l'on a respecté partout très longtemps un mare clausum depuis l'Antiquité. Toutes les populations maritimes ont renoncé à naviguer pendant l'hiver. On naviguait l'été.
Donc ce qu'on craignait le plus, c'était quoi? Les intempéries, finalement?
Les intempéries, oui. Ouais, c'est-à-dire que les bateaux qui n'avaient pas de moyens de navigation, de positionnement sûr, et qui étaient quand même des bateaux très précaires, des petits bateaux en bois de faible dimension, ça faisait 30 mètres, 60 mètres au très grand maximum, on ne se hasardait pas par une très mauvaise mer. La météorologie a conditionné très longtemps les transports maritimes. Par exemple, la mousson dans l'océan Indien faisait qu'on naviguait vers l'est ou vers l'ouest quand la mousson était dans le bon sens. Et quand on avait raté la mousson, on pouvait attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois que le vent revienne dans le bon sens. Le vent a été toujours le conditionneur de tous les voyages maritimes.
François Bélec, si très longtemps la navigation a été conditionnée par la météorologie et notamment par le vent, elle l'a été aussi longtemps par la géographie et par la connaissance que l'on avait du monde tel qu'on se l'imaginait. ainsi que de la répartition de la terre, de la mer, des proportions. Quelle influence est-ce que ça a eu sur la manière justement d'entreprendre des voyages et de la navigation ?
La compréhension de la terre, la cartographie, a conditionné tous les voyages. Et même à l'époque des découvertes, la géographie grecque qu'on avait retrouvée est restée très prégnante au point qu'il a fallu faire coïncider les découvertes avec la théorie.
Quand vous parlez de l'époque des découvertes, oui, situé à quelle période ?
C'est le 15e, ce qu'on appelle les grandes découvertes, hein, c'est-à-dire le tour de l'Afrique par les Portugais, Christophe Colomb l'Amérique, et Magellan et le Pacifique, hein, c'est cela. Hein. Bon, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Terre était un espèce de disque plat en suspension dans le cosmos. Il y a une carte babylonienne au 5e siècle qui montre cette Terre avec une espèce d'océan circulaire reliant la Terre à des contrées célestes. Ça reste très vague. Au 4e siècle, tout se met un petit peu en ordre. On rassemble les connaissances sur le Coumène, c'est-à-dire la Méditerranée, l'espace à vivre chrétien, et le Proche-Orient jusqu'à l'Inde. Aristote démontre que la Terre est ronde. À partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, on sait que la Terre est ronde. Les progrès vont se faire assez vite parce que pratiquement Aristarque, au 3e siècle avant Jésus-Christ, propose que la Terre tourne sur elle-même. Et il envisage même l'héliocentrisme. Il envisage même que finalement, ce ne serait pas le Soleil qui
tourne autour de la Terre, mais l'inverse.
Ça serait le centre. Mais on lui dit, Aristarque, on lui dit qu'il est en train de troubler le repos des dieux, qu'il ne faut pas se lancer dans un truc pareil. Bon, il va trop loin. 2e siècle avant Jésus-Christ, Hipparque, ce sont tous ces grands géographes grecs qui ont vraiment fait des progrès fulgurants. Il imagine un espace carroyé. En mesurant les hauteurs du soleil à certains endroits, grâce à des gnomons, en regardant les hauteurs des étoiles à certains endroits, il commence à imaginer et à dessiner, à supposer une carte de l'œcumène dans la Méditerranée, avec au fond des parallèles et des méridiens. C'est là que naît le mot latitude et longitude. Qu'est-ce que c'est que la latitude? Ben, c'est la largeur. C'est le même mot en grec. C'est la largeur de la Méditerranée. La longitude, c'est la longueur de la Méditerranée. Et donc là se met en place cette notion de position d'un point par rapport au pôle nord et au pôle sud, sur un méridien, et la longitude qui est sa position autour de la Terre d'est en ouest. Mmh. Bon, et ça se met déjà en place au 3e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Bon, et puis Ératosthène, à cheval entre moins 2, plus 2 siècles, propose une géographie, un dessin du monde qui est très pertinent, qui représente ce qu'on sait de l'Eurasie comme une sorte d'île flottant sur le grand océan. La mer, c'est toujours la Méditerranée, l'océan, c'est l'Atlantique et tout le reste. Hein, c'est ce qu'on appelle l'Océanus. L'Océanus, c'est le grand océan. Bon, imagine ça. Et Ptolémée, lui, au 1er siècle, qui est le grand géographe, alors là c'est le monstre sacré, c'est le compilateur de toute la géographie grecque, il propose une géographie, il propose ce mot d'ailleurs géographie, et lui représente la Terre d'une autre façon. Alors là il commet une erreur, c'est qu'il pense qu'au fond que l'océan Indien c'est une grande Méditerranée, et qu'il existe un continent austral, une terra australis, non cognita, qui équilibre l'Europe et l'Asie, pour que la Terre soit ronde et en équilibre dans l'espace, il manque quelque chose. Donc il propose cette terre australe.
Et entre les deux, enfin au milieu...
Entre les deux, il y a la Méditerranée et puis l'océan Indien. Alors ça a l'air de rien, mais quand on va redécouvrir Ptolémée au 15e siècle, ça va conditionner toutes les découvertes. Ptolémée, on va chercher la Terre australe jusqu'au XVIIIe siècle. C'est Cook, James Cook, qui le premier, après avoir été deux fois avoir franchi le cercle polaire antarctique, dit il n'y a pas de Terre australe. Donc vous voyez la prégnance qu'a été cette géographie grecque. Alors la géographie grecque, elle disparaît complètement pendant le Moyen-Âge, qui abandonne tout à fait cette connaissance.
Pourquoi est-ce qu'on les oublie?
Ben parce que on rentre dans une grande phase religieuse et l'Église se préoccupe surtout de faire comprendre le message biblique et de faire coller la création du monde au message biblique. Alors on voit apparaître à ce moment-là les cartes qu'on appelle en taux. Théo, le T, c'est le Nil, le Don, l'Euphrate qui se croisent, la Méditerranée, entourée d'un O qui est l'océan circulaire. Alors, la Terre est toujours ronde, hein, on ne revient pas à la Terre plate, mais ça revient à dire, si vous voulez, que au fond, on représente de façon symbolique, relié à la Bible, le monde connu, donc toujours cette œcumène méditerranéen, et puis l'Eurasie, l'Asie jusqu'à l'Inde, que l'on connaît bien, qui a été investigué déjà par les Grecs, et l'océan circulaire tout autour, c'est l'océan, mais il n'y a rien à voir. On n'y va pas, c'est pas un domaine pour les chrétiens, c'est un domaine qui n'a aucun intérêt, qui est démoniaque.
La suite de l'histoire.
sachant voilà, que l'eau, dans la symbolique chrétienne, peut signifier la mort. C'est le lieu de la mort.
Tout à fait, puis c'est le lieu de la mort sans sépulture, enfin c'est vraiment, c'est l'abomination complète. En plus, il y a la notion de mer des ténèbres, parce que...
Alors qu'est-ce que c'est que cette notion qui domine aussi beaucoup cette période-là du Moyen-Âge ?
Et qui est d'ailleurs commune à l'islam. L'islam a aussi cette notion de mer des ténèbres. Et bien, l'océan, cet océan que l'on considère comme très maléfique, avec peuplé de monstres épouvantables, a forcément au-dessous, même si on comprend bien que on pense que le soleil tourne autour de la Terre, mais ça n'empêche pas qu'on pense que de l'autre côté, c'est noir. On est dans une obscurité absolue. Et les limites des navigations antiques et médiévales, c'est le Cap Bojador, c'est au sud du Maroc, c'est devant, un peu après Essaouira.
On ne va pas au-delà.
On va pas au-delà.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ?
La tradition dit que la peau devient toute noire en franchissant le cap et que les courants vous amènent vers l'équateur où l'eau bout.
Parce qu'il fait très chaud.
Parce que l'eau bout à l'équateur. Donc franchir le Cap Bojador, c'est aller à la mort certaine. Et ça sera une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les premiers Portugais qui se lancent à l'assaut du Cap Bojador reviennent, non pas parce qu'ils ont eu peur, mais parce qu'ils pensent que c'est suicidaire et que l'infant Henri ne peut pas leur demander de perdre leur âme en se suicidant.
Donc cette croyance-là, elle perdure jusqu'à quand ?
Elle perdure jusqu'au 15e siècle.
15e siècle.
Et donc cette mer des ténèbres, ça ne se franchit pas. Certaines cartes disent qu'il y a une main qui sort de l'eau en disant « non procédez sans plius, ça ne va pas plus loin ». Enfin, il y a vraiment tout un mythe de la mer des ténèbres. Donc l'océan est bloqué, totalement bloqué, fermé à toute idée de navigation en dehors de l'espace méditerranéen.
Donc seule la partie est est envisageable.
Alors, la partie est, eh bien, elle est pratiquée par les Arabes, parce que pendant que nous sommes terrorisés par la mer, en l'an 1000, prenons l'an 1000 comme exemple de référence, les Vikings ont traversé l'Atlantique, les Maoris ont peuplé le Pacifique, les Arabes, les Persans et les Chinois naviguent sans aucun problème depuis la Chine jusqu'au fond de la mer Rouge. Et les Arabes ont inventé une méthode de navigation par la hauteur de l'étoile polaire aux environs du 8e siècle, c'est-à-dire 7 siècles avant nous.
Extrait du poème « Le voyage » de Charles Baudelaire. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant. De même qu'autrefois, nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent « Par ici, vous qui voulez manger ».
Ça veut dire que l'Occident, en quelque sorte, est au point mort,
oui,
pour des raisons obscurantistes.
Des raisons depuis ou en plus. Alors, il faut dire aussi que il n'y a pas tellement besoin de ça, puisque les routes de la soie sont exploitées par Venise. Venise envoie ses marchands sans problème sur le long des marchés orientaux, mais laisse les orientaux tout amener jusqu'au fond de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. Les caravanes amènent ça en Méditerranée orientale. Venise a développé un réseau de galères marchandes, de très grosses galéas marchandes qui vont chercher tout ça, collecter tout ça en mer Noire et en Méditerranée orientale, ramène ça au Rialto et diffuse ça jusqu'au Flandre. Donc il n'y a pas besoin de se mêler de navigation au long cours, puisque la grande richesse des routes de la soie, le poivre, les épices, le gingembre, la muscade, le girofle, la soie, le poivre, tout ça arrive et c'est rediffusé par Venise. Donc il y a une sorte de système qui fonctionne bien et personne n'éprouve le besoin d'aller faire autre chose.
Pourtant la préoccupation de l'évangélisation, alors qu'il battra son plein, on va dire, à partir du 15e siècle au-delà des mers, hein, mais elle est quand même très présente dès le début. Elle pourrait être une véritable motivation.
Alors, elle est une des deux motivations des grandes découvertes.
Mais
plus tard. Un compagnon de Vasco de Gama dira, en arrivant à Calicut, le Samorim de Calicut, le roi lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et il répond cette phrase célèbre « Nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices ». Il y a eu ces deux motivations-là qui ont été tout à fait simultanées et qui ont expliqué les découvertes. Cela dit, c'est le poivre Le poivre a été le propergol de découverte, mais l'évangélisation a été sa grande motivation, la raison d'ailleurs pour laquelle l'Ordre du Christ a été vraiment le sponsor des découvertes.
À partir du XVe siècle, François Bellec, les Portugais sont les meilleurs navigateurs, disons. Ils dominent les océans et les mers. D'où vient cette compétence particulière, ce savoir-faire? Est-ce qu'elle s'explique par des raisons, disons, techniques? Est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement bien la navigation? Ou bien il y a d'autres raisons et d'autres motivations qui les poussent?
Et ça, c'est la grande question des découvertes. En fait, le Portugal a inventé la navigation occidentale. C'est le Portugal qui a fait tout le travail des découvertes. Et on verra plus tard que Christophe Colomb ou Magellan n'ont été que des alternatives à cette grande invention de la mer. C'est les Portugais qui ont ouvert l'Atlantique véritablement. Alors, ça a commencé un peu accidentellement. En fait, le Portugal n'était pas du tout un pays maritime par rapport à Venise et ses galères marchandes, par rapport aux bateaux de la Ligue hanséatique qui avaient inventé un caboteur formidable, la cogue hanséatique qui faisait un cabotage intense. Le Portugal, c'est un petit pays de pêcheurs, 1 million d'habitants, tout petit pays.
Et dont la côte est exclusivement tournée vers l'Atlantique, vers cette mer des ténèbres d'ailleurs.
Je dirais un peu entre l'Atlantique et les Pyrénées. Alors donc, le Portugal commence accidentellement parce que les infants demandent en 1414 à leur père, Jean Ier, d'organiser une petite croisade à Ceuta, une petite ville marocaine sur la côte sud du détroit de Gibraltar, pour leur entrer en chevalerie. Le roi dit, mes enfants, vous n'y pensez pas, cette ville est si lointaine. Le Portugal considère que le Maroc, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, qui voit tous les jours, de l'Algarve, on voit la côte marocaine, considère que c'est tellement loin que c'était inenvisageable. On prépare une flotte pendant 1 an, la traversée par d'Algésiras. Ça dure plusieurs jours, c'est une catastrophe maritime. Les bateaux sont emportés par les courants, ont du mal à se regrouper, donc les Portugais ne savent vraiment pas naviguer. Mais le 21 août 1415, Ceuta tombe et la mosquée de Ceuta est transformée en église. Et à partir de là, le Portugal s'aperçoit d'un coup que ça y est, l'Afrique, ils ont pris pied. Et du coup, vient l'idée de faire le tour de l'Afrique pour contourner le monopole de Venise et rejoindre le fameux prêtre Jean, qui est un prêtre mythique, un souverain chrétien qui a une armée, qui est du côté de l'Abyssinie, et l'idée de rejoindre le prêtre Jean, c'est de prendre l'islam à revers. Alors, d'après les connaissances de l'époque, la géographie de Ptolémée donnerait l'impression qu'on peut pas faire le tour de l'Afrique, mais il y a une autre série de cartes qui est née, on appelle ça les cosmographies, ça apparaît dans les années 1430. C'est inspiré manifestement d'une cartographie arabe, mais ça donne l'impression d'une Afrique parfaitement contournable, mais qui serait, je dirais, pratiquement limitée au golfe de Guinée, quoi. C'est-à-dire l'Afrique, ça paraît pas très loin. Et les Portugais se disent qu'on va faire le tour de l'Afrique avec leurs bateaux, les petits bateaux, des barcaches, des barinés, c'est les petits bateaux à voile et à aviron. Ils n'ont pas du tout l'intention de faire de la haute mer. Le seul problème qui se pose, c'est de faire franchir ce Cap Bojador.
Et cette fameuse mer des ténèbres.
Voilà, la mer des ténèbres. Alors, 15 tentatives, 15 échecs, les jeunes nobles, les jeunes fidalgos qui y vont, reviennent en disant, ils osent pas. Comme le mur du Fion, hein. Le mur du Fion, le premier qui l'a franchi, fallait savoir si ça passait ou ça passait pas.
C'est qu'ils n'osent pas y aller.
Ils n'osent pas y aller. D'accord. Parce que c'est pas qu'ils ont peur, il se passe rien de particulier. Le Cap Bojador, c'est pas terrible, c'est pas impressionnant, mais ils ont la peur d'un véritable suicide. Puisqu'on sait que c'est mortel, si on franchit, on se suicide. Donc c'est Gilles et Annès qui, en 1433, a l'idée géniale de partir très loin. Il s'éloigne du rivage, puis il revient tout doucement vers la côte. Ils se regardaient tous là mutuellement pour voir s'ils ne venaient pas noirs. Puis il s'aperçoit qu'il touche terre, il ne se passe rien. La plage, c'est exactement comme celle du Maroc. Et il cueille quelques roses de Jéricho comme preuve, et puis il revient à toute vitesse, dire à la fin, on a franchi Bojador. Et l'année suivante, on envoie un autre bateau avec deux jeunes nobles qui, à cheval et en armure, vont explorer le pays. C'est véritablement l'exploration de la Lune. Hein. Nous sommes là, mutatis mutandis, dans l'exploration de la Lune. Alors, à partir du moment où le cap est passé,
tout est possible.
Tout est possible. Les Portugais s'aperçoivent que finalement, c'est beaucoup plus long que prévu. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont mettre 83 ans avant d'arriver au bout. Ils sont gênés par...
Attendez, c'est plus long que prévu de faire le tour de l'Afrique.
Oui, parce que l'Afrique est beaucoup plus grande que
on s'y attendait pas.
Et donc, de petit progrès, d'année en année, on va un peu plus loin. Et bien, il va falloir 83 ans pour faire le tour de l'Afrique. Alors qu'est-ce qui amène les Portugais en haute mer? C'est simplement le fait qu'ils sont gênés par les alizés du nord-est quand ils reviennent vers Lagos, parce que ça part de Lagos. L'infant Henri s'est installé, il est gouverneur de l'Algarve et c'est de Lagos que tout part. Ils imaginent, au lieu de tirer des bords, c'est-à-dire de zigzaguer contre le vent, de faire un large bord vers les Açores et de revenir vent arrière. Ils ont découvert les vents d'ouest, ils ont découvert le régime des vents, revenir vent arrière vers le Portugal. Ils sont obligés de quitter la terre de vue, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Ils vont utiliser la carte Portulan qui est née à la fin du XIIIe siècle, qui est la première carte marine destinée à des navigateurs, adaptée à une navigation par la boussole, qui existe en Méditerranée, qui n'est pas utilisée. Ils se mettent à l'utiliser, c'est les premiers à naviguer vraiment à l'estime en haute mer. Et puis ils font comme les Arabes, ils découvrent que plus on descend vers l'équateur et plus l'étoile polaire descend sur l'horizon. Ils inventent la mesure de la latitude par l'étoile polaire. Et quand ils perdent l'étoile polaire de vue en franchissant l'équateur, ils mettent au point des tables de déclinaison du soleil. Et grâce à la hauteur du soleil méridien additionnée ou soustraite, suivant les cas, de la déclinaison du soleil, on a la latitude. Et cette fois-ci, les Portugais ont inventé un système universel. Les étoiles, ça change autour de la Terre, suivant la latitude à laquelle on est et suivant l'endroit où on se trouve. Le ciel n'est pas le même. Là, ils découvrent un moyen de naviguer universellement en des terres inconnues. Grâce à la carte Portulan, à la boussole et au soleil méridien, les Portugais vont pouvoir découvrir le monde.
Donc ils ont une longueur d'avance considérable. Là.
Alors c'est eux qui apprennent tout et tous les peuples européens, d'abord les Espagnols dans leur foulée, puis les Anglais, les Hollandais au XVIIe siècle, les Français, tout le monde, la navigation universelle sera déduite des inventions portugaises.
Alors avant qu'ils ne traversent l'Atlantique, ils naviguent donc, ils contournent l'Afrique.
Ils contournent l'Afrique, mais ensuite, ayant découvert que les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'Atlantique Nord et dans le sens inverse dans l'Atlantique Sud, ils inventent la grande option météorologique qu'utilisent encore les navigateurs quand ils partent faire des grandes courses autour du monde. Ils utilisent les routes portugaises. Ça consiste à descendre jusqu'au Brésil en suivant les alizés pour attraper les vents d'ouest à l'altitude du Cap de Bonne-Espérance pour revenir sur l'océan Indien. Alors le Cap de Bonne-Espérance est découvert en 1488 par Bartolomeo Dias. Et là, Jean II du Portugal, qui était un roi sage, dit « Mais j'ai peur que le pays est trop petit pour qu'on aille si loin, ça va faire de l'inflation, ça va disperser nos forces et je pense qu'il faudrait que l'on attende. » Ils attendent 10 ans et c'est finalement Manuel Ier qui décide de prendre la suite de ses prédécesseurs et de terminer le tour de l'Afrique. Et 1498, Vasco de Gama arrive en Inde. Et c'est là que le Zamorim lui dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ? Nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices. »
Alors là, on a parlé des Portugais. Est-ce qu'à l'autre bout du monde, les Chinois, par exemple, dont vous nous disiez au tout début qu'ils étaient parmi les précurseurs, progressent aussi dans la navigation ?
Eh bien non, parce que les Chinois ont lancé 7 voyages d'exploration de l'océan Indien, de la mer de Chine, entre 1405 et 1433. Ce sont les expéditions de l'amiral Cheng Ke, qui ont été voulues par un empereur qui voulait aller voir s'il y avait quelque chose d'intéressant derrière les contrées barbares. Ils ont considéré qu'il n'y avait rien à voir, que c'était pas intéressant, que les populations étaient sans intérêt, que ça coûtait très cher et que finalement il fallait arrêter tout. Et en 1433, l'empereur successif décide que on arrête la navigation en haute mer, et on punit de mort la construction des navires de haute mer. Et la Chine se replie à l'abri derrière la Grande Muraille et assèche complètement cette science de la mer qu'elle détenait.
Alors qu'en parallèle, donc, les Portugais, eux, progressent à vitesse grand V et ouvrent de nouvelles voies,
oui,
du coup.
Tout en étouffant la science arabe. C'est le blocus de la navigation arabe. Les Arabes perdent leur monopole de la navigation de l'océan Indien, sont coupés des découvertes, la cartographie arabe s'arrête, et finalement, les deux précurseurs qui ont été les Arabes et les Chinois ont disparu de la circulation au moment où les Portugais, eux, commencent leur navigation expansionniste.
Alors cette navigation expansionniste, au début, elle est effectuée uniquement à titre expérimental ou très vite elle est exploitée, notamment pour de nouvelles formes de commerce et accéder à des endroits qui viennent d'être découverts.
Ben, elle est tout de suite utilisée pour ce qui a été autorisé, puisque le pape Eugène IV a donné en 1435 au Portugal le droit de conquérir des peuples et de faire du commerce et de les exploiter sous réserve de les évangéliser à partir des Canaries. La Libye, au nord des Canaries, c'est le roi d'Espagne qui est chargé de ça. C'est le principe de la plenitudo potestatis qui autorise le pape à répartir le monde entre les souverains chrétiens pour répartir l'évangélisation.
Donc les Espagnols au nord?
Au nord des Canaries.
Et au sud?
Et au sud de les Portugais. Alors ça va changer lorsque Colomb a découvert autre chose dans l'ouest.
Et ça sera transposé à l'Amérique,
on va changer à ce moment-là. Ça sera Alexandre VI qui transforme ce partage du monde horizontal en partage vertical. C'est pour ça que le Brésil est portugais, parce que la ligne du traité de Tordesillas traverse le Brésil. L'Amérique du Sud est espagnole et le Brésil est portugais. Le monde est partagé à ce moment-là dans les deux sens et toute l'Asie appartient au Portugal.
Et c'est le pape donc qui en décide.
C'est le pape qui est ça et s'est entériné ensuite par le traité de Tordesillas en 1494 qui va entériner ça.
François Bélec, on l'a vu, les Portugais dominent la navigation au 15e et 16e siècle. Pourtant, les Espagnols ne vont pas être en reste et rapidement vont eux aussi devenir des précurseurs, en tout cas des rivaux pour les Portugais.
En fait, quand le Portugal a fait tout le travail, il a eu tous les courages, il a dégonflé les mythes, il a franchi tous les obstacles, il a inventé la navigation. Et puis finalement, il y a deux hommes qui vont tirer la couverture. L'un, c'est Colomb et l'autre, c'est Magellan. Et tous les deux, ayant proposé leur service au Portugal, ont fini par faire ça pour le roi d'Espagne. Et finalement, les uns n'étaient plus à découvrir puisqu'on les connaissait. La route des Indes, ça a été très pénible, mais c'était pas une découverte. Alors que Colomb tombe accidentellement sur l'Amérique et que le voyage de Magellan se termine par un tour du monde. Donc tout ce qui est médiatique, c'est devenu espagnol. Alors, Christophe Colomb, en fin de compte, bon, on le sait, il est né à Gênes en 1451. Il a appris à naviguer chez les Catalans à Barcelone. Et puis il est arrivé au Portugal dans des drôles de circonstances. D'ailleurs, il y a un trou dans la vie de Colomb. Enfin, il arrive au Portugal en 1478. Il s'installe avec son frère qui est déjà là à Lisbonne, ils sont cartographes. Colomb est un type tout à fait passionnant, c'est un homme qui est d'une très grande culture, parlant plusieurs langues, lisant tout ce qui peut se lire sur les découvertes. Sa bibliothèque est considérable. Et il se met à imaginer, un peu en accord avec le Paolo Toscanelli, qui est un savant italien, l'idée que, puisque la Terre est ronde, on peut en faire le tour, ce qui paraît tout bête et tout simple. Encore une fois, quand on réfléchit maintenant aux grandes découvertes, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, parce que si on essaie de raisonner maintenant, les choses sont difficilement compréhensibles. Et donc, il dit, puisqu'on peut faire le tour, il y a en plus les écrits du cardinal d'Ailly, tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire le tour. Donc, il va proposer ça à Jean II du Portugal, qui est probablement le seul souverain capable de discuter avec Colomb, parce que le Portugal est très en avance. À cette époque-là, le Portugal est déjà dans l'hémisphère sud. Il n'est pas encore arrivé au Cap de Bonne-Espérance, mais enfin, il maîtrise les océans. Et donc, le roi du Portugal lui dit, vous avez raison, mais enfin, cette alternative d'aller vers l'ouest, c'est une sorte de privatisation de l'ouverture de la route maritime des Indes. C'est une affaire d'État au Portugal, c'est très sérieux, c'est une affaire dans laquelle le roi est impliqué. Donc, Colomb est un aventurier un peu dérangeant. L'idée de Colomb, c'est qu'en plus, si on fait le tour par l'ouest, bien d'après ce qu'on sait de la cartographie du monde, on va passer le long de la Chine, puisque logiquement, comme on ignore l'Amérique, qu'est-ce qu'on trouve à l'ouest de l'Atlantique? C'est la Chine. Et donc, cette possibilité d'arriver aux îles Moluques en longeant la Chine, c'est quand même une route bien plus intéressante que cet interminable tour de l'Afrique. Donc, l'idée de Colomb est très séduisante. Elle est refusée par Jean II. Mmh. Colomb passe en Espagne, il arrive à Séville en 1485, et attend un peu pour être reçu par les rois catholiques, qui va avoir une audience l'année suivante. 1486, il propose son idée aux rois catholiques. Ferdinand d'Aragon, ça n'intéresse pas du tout. Isabelle de Castille, elle, trouve que c'est une superbe idée. Mais l'Espagne est engagée dans la reconquête sur les Arabes. Les Arabes sont quand même là depuis 741, quand Tariq a franchi le détroit de Gibraltar, Jebel al-Tariq, la montagne de Tariq. Et ils sont engagés dans cette reconquête. L'Espagne n'a pas les moyens de financer une grande aventure comme celle-là.
Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest ?
Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'un an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane.
RCF, la suite de l'histoire.
Colomb se prépare donc à repartir chercher un autre souverain. Il va aller vers la France ou l'Angleterre. Quand, divine surprise, en 1492, c'est la chute de Grenade. C'est la fin de la reconquête. Les Arabes sont définitivement chassés d'Espagne. L'Espagne peut penser à un nouveau dessein. On rappelle Colomb et Isabelle réussit à convaincre Ferdinand de confier une expédition à Colomb. Donc Colomb va partir avec la simple idée d'arriver aux îles Moluques, les îles des épices, de la soie, de la cannelle, du girofle, par l'ouest, si possible en longeant
les côtes chinoises.
On va rencontrer le crâne, il a eu une lettre du roi pour l'empereur de Chine, et en plus Toscani lui a promis une île, Cipango, Marco Polo, qui a passé 25 ans en Chine au service de l'empereur, qui a été un peu un envoyé ou une sorte d'inspecteur de l'empereur de Chine, a parlé de tout ce qu'il avait vu, puis aussi de ce qu'il n'avait pas vu. Ce qu'il n'avait pas vu, c'était Cipango, qui est le Japon, où les palais ont des toits d'or, et il y a de l'or tellement partout qu'on se baisse même plus pour le ramasser. Donc l'idée de passer par Cipango, c'est absolument formidable. Et donc quand on s'en va, et puis ça va très mal se passer.
On pense que la Chine est près de l'Europe.
Ah ben tout à fait. Ben, alors, au point que l'Amérique du Nord sera
côté ouest,
très longtemps prise pour la Chine, et sur les cartes, l'Amérique du Nord sera toujours la Chine. Donc quand Colomb arrive à toucher les Antilles, les Bahamas, bah pour lui, il est manifestement en Chine. Il peut pas être ailleurs qu'en Chine. Les îles des épices, il sait pas où elles sont, mais tout ce qu'il voit, cette terre, c'est forcément ça. Alors l'ennui, c'est que faire coïncider des peuplades de pauvres qui vivent dans des paillotes misérables avec les paléotois d'or, ça colle pas très bien. Et donc, Colomb va chercher comme un malade pendant quatre voyages successifs à arriver à la fois aux Moluques ou arriver à Cipango. Le premier, c'est 1492-1493. Il revient triomphant en disant, ça y est, je suis arrivé. Il ramène un tout petit peu d'or qu'il a récupéré au nez, aux oreilles des naturels. Mais il dit, l'or, en fait, c'est un hâbleur, Colomb. Il dit, l'or, je suis sur la route, je vais le trouver. Les perles, on ne saura plus où les mettre. Il dit même, j'ai pas voulu ramasser des perles parce que, écoutez, il dit à Isabelle de Castille, quand vous en voudrez, je vous en chercher. J'ai pas voulu perdre de temps. Mais vous inquiétez pas, il y en a partout. Bon. Il va retourner en 1493-96. Et là, pour ce qui montre bien l'état d'esprit de l'époque, en longeant la côte de Cuba et sans avoir fait le tour de l'île, il fait jurer par ses capitaines et par ses notaires et par ses pilotes que Cuba est la terre ferme. C'est-à-dire qu'il fait jurer qu'ils ont atteint la Chine, alors qu'il n'a même pas fait le tour de la question. Le quatrième voyage, en 1498-1500, il va toucher là le nord de l'Amérique du Sud, et devant le fleuve Orénoque, qui met beaucoup d'eau douce, il dit « mais ça c'est le paradis terrestre, il y a trois fleuves qui coulent du paradis terrestre, toute cette eau douce, je sens bien que j'approche du paradis terrestre, c'est même dangereux parce que je risque quand même d'aller un peu dans les secrets des dieux ». Et puis enfin, il en fait un dernier voyage épouvantable en 1502-1504, il va longer toute l'Amérique centrale à la recherche de ce passage qui doit exister quelque part, et sans arriver à trouver. Alors le malheur, c'est que Colomb, qui est le seul navigateur qui a eu une idée personnelle et qui l'a suivi jusqu'à son terme, il faut dire qu'avant de partir, son projet avait été soumis par Isabelle de Castille à une commission comprenant des amiraux, des astronomes, des théologiens, pour savoir si l'idée de Colomb qu'on pouvait faire le tour de la Terre était valable. La commission s'est réunie pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, au bout de 4 ans, elle a conclu que saint Augustin disant dans la Cité de Dieu qu'il n'est pas possible de passer d'un hémisphère à l'autre, l'idée de Colomb n'était pas recevable. Et donc Colomb allait quitter l'Espagne comme ça, quand la chute de Grenade a relancé le projet. Donc voilà, en fait, Colomb a eu des idées fulgurantes par rapport à celles de son temps.
Thank you.
Mais vous considérez que c'est un échec?
C'est un échec parce qu'il voulait arriver en Inde et puis il n'a jamais touché l'Amérique. Continue. Il n'a jamais mis le pied en Amérique. Il a trouvé un continent sans savoir ce que c'était. Continent qui sera d'ailleurs quelques années après baptisé accidentellement du nom d'Amerigo Vespucci par la suite d'une erreur de cartographe à Saint-Dié. C'est en France qu'on a trouvé le nom Amérique. On voulut éditer une nouvelle carte de Ptolémée en lui rajoutant les découvertes de Colomb. Et on était persuadé à ce moment-là que l'Amérique du Nord, c'était la Chine, et l'Amérique du Sud, c'était un quatrième continent, inconnu et nouveau, qui allait équilibrer la Chine comme l'Afrique équilibre l'Europe. Et donc, pendant très longtemps, ça a figuré comme ça sur les cartes, avec toujours l'espérance d'un passage entre les deux. Donc, c'est à Saint-Dié qu'on a eu l'idée, parce que Amerigo Vespucci, qui travaillait pour les Médicis, a fait 4 voyages aux Amériques, 2 sous pavillon portugais, 2 sous pavillon espagnol, et qu'il a écrit dans une lettre aux Médicis, mais sans y penser, en disant « j'ai vu un monde nouveau ». Voulant dire dans son esprit, j'ai pas découvert un monde nouveau, mais ce que je vois, personne l'a vu. Ça tombe sous les yeux de ces cartographes qui disent, il a vu un monde nouveau, Mundus Novus, c'est formidable, et donc ils appellent ce quart continent America, du nom d'Amerigo Vespucci. Voilà. Donc Colomb a eu tous les échecs, et même l'Amérique porte pas son nom. Et en plus, ce malheureux, il est mort pas en disgrâce, mais quand même très dévalorisé, avant que l'on trouve le nouvel Eldorado, que l'on trouve les mines d'or et d'argent du Pérou et du Mexique.
C'est quand même une découverte extraordinaire, malgré tout.
C'est une découverte extraordinaire. C'est ce que lui n'en a pas profité, dans la mesure où, jusqu'à sa mort, on n'a pas finalement compris que c'était la portée de sa découverte.
Est-ce qu'il a, du point de vue de la navigation, utilisé des techniques nouvelles?
Non, il a utilisé les techniques portugaises. Je dirais même qu'il naviguait pas très bien. Enfin, je veux pas démolir Christophe Colomb. Enfin, il avait beaucoup de défauts. Ce n'est pas un navigateur extraordinaire. Sa traversée, j'ai souvent dit méchamment, parce que moi je suis très attaché au Portugal, que entre les voyages des Portugais aux Indes qui pouvaient durer 6, 7, 8 mois sans escale, et la traversée vers les Bahamas, qui était vraiment une sorte de croisière aux Bahamas, il n'y avait pas photo. En fin de compte, c'était quand même plus facile de traverser à cet endroit-là. Mais tout le mérite de Colomb, je dis, c'est d'avoir eu cette idée qu'on peut faire le tour de la Terre et de l'appliquer jusqu'au bout.
Donc le mérite est plus du point de vue de l'idée que de sa réalisation.
Oui, voilà. Et moi, je suis pas un Colombien convaincu, mais je le cite toujours comme le plus grand des navigateurs, le seul qui a eu une idée personnelle. Tous les autres, ça a été des opérations d'État.
Cette Amérique que Christophe Colomb n'a pas réussi à contourner, à traverser, cette ouverture vers la Chine et vers les Indes, disons, qu'il n'a pas trouvé, c'est finalement Magellan qui va réussir à faire ce que Christophe Colomb n'a pas réussi à faire, en contournant l'Amérique par le Sud?
Oui, on a cherché longtemps à contourner l'Amérique et on a été très surpris quand on a atteint la latitude du Cap de Bonne-Espérance. Il y a toujours une notion de symétrie dans les esprits à l'époque, mais on s'est aperçu que cette terre nouvelle descendait beaucoup plus bas. Est-ce qu'elle était reliée à cette fameuse terre australe ou pas? Est-ce que ça passait ou est-ce que ça passait pas? Alors on cherchait aussi dans le nord, le passage du nord-ouest, mais là c'était impraticable à l'époque, étant donné la situation des glaces à ce moment-là. Et donc on cherchait vainement ce passage à travers l'Amérique, puisque cette route vers les Moluques par l'ouest intéressait beaucoup l'Espagne. Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où Christophe Colomb a trouvé quelque chose, donc ces Indes occidentales, les Indes se sont dédoublées, il y en avait à droite et il y en avait à gauche des cartes, et le fameux partage du monde entre l'Espagne et le Portugal à la latitude des Canaries, ça collait plus. Et donc Alexandre VI Borgia, en 1493, a eu l'idée de partager par le monde, non plus du nord au sud mais d'est en ouest, par un méridien passant à 100 lieues à l'ouest des Açores, le Portugal étant dans sa zone à l'est et l'Espagne à l'ouest, sur ces terres qu'avait reconnu Christophe Colomb. Ça a été aménagé par le traité de Tordesillas en 1494, qui a officialisé ça entre les deux pays, en repoussant un petit peu la limite un petit peu plus à l'ouest. Et quand je le dis souvent, parce que je trouve ça sympathique, c'est que on parle portugais au Brésil parce que le traité de Tordesillas a mis le Brésil dans la zone portugaise. Alors, l'idée de Magellan, ben, ça a été de vérifier si les Moluques étaient dans la zone espagnole ou dans la zone portugaise. Parce que le traité d'Ordesillas, dans l'Atlantique, c'était impossible à mesurer véritablement, puisqu'on n'avait pas encore la longitude. La longitude, elle a attendu encore 4 siècles avant d'arriver. Mais alors, dans l'océan Pacifique, l'antiméridien, c'était encore pire. Donc là,
qu'est-ce que ça veut dire, l'antiméridien?
Ben, c'est-à-dire le méridien qui est de l'autre côté, le symétrique d'un méridien par rapport à l'autre côté, dans l'autre hémisphère.
Et la longitude, en quoi est-ce que c'est si important?
Eh ben, la longitude, c'est l'espace-temps, c'est cette mesure de la distance horizontalement autour de l'équateur. Tant qu'on ne peut pas mesurer cela, parce que c'est un rapport très complexe et très précis entre l'espace et le temps, il fallait ou bien des tables de navigation qui n'existaient pas et qu'on va mettre au point au XVIIIe siècle, ou des instruments de maintien de l'heure, des horloges particulièrement précises qui n'existeront pas non plus en XVIIIe siècle. Donc jusqu'à présent, la mesure de la longitude, ça se fait à l'estime. Donc déterminer la position du méridien de Tordesillas dans l'Atlantique, c'est déjà compliqué, mais le contraire du méridien de l'autre côté dans le Pacifique, ça devient tout à fait irréalisable. Donc tout le problème, c'est de savoir si les Moluques, ces îles tellement précieuses, le seul endroit où poussaient la muscade et le girofle, tout ce qu'on savait, c'était aux environs justement de cet antiméridien.
Pour savoir, il fallait y aller. Il fallait voir.
Alors Magellan, c'était un petit noble portugais. C'est une histoire terrible. C'était un petit noble portugais, petite famille portugaise, suffisamment noble pour être admise à la cour, mais pas assez pour avoir des charges importantes. Magellan va faire la guerre dans l'Empire portugais. Il est blessé, il boitille. C'est un piètre courtisan. Il est pas beau. Il est pas en cour. Il revient des Indes, il a un poste au Maroc, il est accusé de malversation, comme c'est un caractériel. Il quitte son poste et rentre à Lisbonne pour demander justice au roi. Bon, il se fait engueuler par Manuel, finalement ça se passe très mal. Il veut absolument un commandement, il veut que ses services soient récompensés, et le roi lui dit « tu n'auras rien du tout ». Et à ce moment-là, il dit ben, « sire, si vous ne voulez pas de moi, permettez-moi d'aller servir le roi d'Espagne ». Et bien, tu n'as qu'à y aller, lui répond Manuel. Et finalement,
c'est ce qu'il fait.
Magellan part en Espagne, et là, il n'a qu'une idée, ben, c'est de montrer que les Moluques sont espagnols. Alors pour faire ça, il va d'abord falloir franchir cette fameuse Amérique qui n'a pas de fin. Mais là, il va vérifier s'il trouve un passage. Et puis l'Espagne, les conseillers de Charles Quint acceptent cette idée. Après tout, ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont rien à perdre ?
Ben, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner.
Ça coûte de l'argent quand même, ce genre d'expédition.
Oui, mais comme les Moluques sont théoriquement portugaises, si on peut montrer que c'est en réalité espagnol, ils ont gagné le pactole. Hein. Donc voilà, encore une fois...
Ça vaut le coup et c'est un bon investissement.
Ben, c'est le poivre et les épices valent plus que l'or. On a appelé le roi du Portugal, le roi du poivre. C'est véritablement la fortune à cette époque. Hein. Les épices, ça coûte plus que le poids d'or.
Donc, carte blanche à Magellan,
ça montre simplement ce qu'on fait, c'est quand même ce petit noble portugais. C'est quand même pas très sérieux. Et donc, on met avec lui 3 grands d'Espagne, qui sont Juan de Cartagena, qui est le videur, c'est-à-dire lui qui représente les intérêts du roi. Il a un rang égal avec l'amiral, ça commence déjà pas bien. Il y a Luis de Mendoza et Gaspar de Quesada, qui ont tous les deux des fonctions aussi, qui sont des grands d'Espagne. Et 3 grands d'Espagne qui partent sous les ordres d'un petit hobereau portugais, ça va mal se passer. Et effectivement, la flottille descend, arrive à l'hiver austral, à des latitudes jamais atteintes, il fait froid, l'idée de Magellan paraît stupide, et puis une révolte éclate, une mutinerie éclate. Magellan a la chance de pouvoir maîtriser cette mutinerie. Juan de Cartagena est abandonné sur une île déserte, et les deux autres au Grand Espagne sont décapités, et leur corps est mis en quartier par le cabestan de la Trinidad. À partir de là, Magellan, on peut dire, s'est pas fait des amis en Espagne.
Alors, Est-ce que c'est un bon navigateur, Magellan ?
Alors lui, c'est un très bon navigateur, surtout un homme courageux. Il a montré son courage au Portugal, il persistait, et finalement, il découvre le détroit en 1520. Ses bateaux trouvent le détroit de Magellan, le franchissent, par très beau temps, et pour ça qu'il appelle l'océan Pacifique, parce qu'il y fait très beau, ils ont eu la chance de passer par beau temps, et commence la traversée du Pacifique, qui devient une traversée épouvantable, parce que le Pacifique, c'est beaucoup plus grand qu'ils s'y attendent. On l'appelait la mer du Sud jusqu'à là, parce que les Espagnols l'avaient vu sous cette forme à partir de l'isthme de Panama, donc ils le rebaptisent Pacifique, et puis le Pacifique n'a pas de fin, et Michel Chandaigne, qui a fait une très belle étude critique des journaux de Magellan, a démontré que Magellan avait compris qu'il s'était trompé, que le Pacifique était tellement grand qu'il était sorti de la zone espagnole et qu'il était rentré dans la zone portugaise et que donc les Moluques n'étaient pas portugaises. Ayant échoué dans sa tentative et n'ayant plus rien à faire en Espagne après avoir condamné à mort trois grands d'Espagne, n'ayant plus rien au Portugal qu'il a trahi, il a manifesté.
Et venant annoncer une mauvaise nouvelle, alors, en plus, c'est que l'idée Moluques n'était pas portugaise.
Et c'est la raison, et Michel Chandaigne explique que c'est la raison pour laquelle le combat stupide qu'il a mené à Mactan, aux Philippines, contre des forces d'un roi bien supérieur à ces quelques soldats de Charles Quint, qu'il a manifestement cherché une mort glorieuse et qu'il s'est suicidé. Alors les deux bateaux qui restent, la Trinidad et la Victoria, atteignent les Moluques sous les commandements de Juan Sebastián de Elcano. Et puis ils se chargent d'épices à refus. Les bateaux sont en mauvais état. La Trinidad essaie de rentrer à travers le Pacifique, retrouve dans la zone espagnole. Ils ne veulent pas traverser la zone portugaise, il faut qu'ils reviennent. C'est ça qui était prévu, c'était aller aux Moluques et d'en revenir par traversant le Pacifique. Malheureusement, il y a un régime des vents dans le Pacifique comme dans l'Atlantique qui fait qu'il faudra attendre très longtemps pour qu'on trouve la route de retour. Donc la Trinidad n'arrive pas à traverser le Pacifique, revient se faire interner chez les Portugais. Et la Victoria, qui a réparé ses avaries, qui a bouché sa voie d'eau, est obligée de revenir piteusement, vent arrière, à travers la zone portugaise. Et elle fait accidentellement le premier tour du monde, ce qui n'était pas prévu du tout. Alors ils sont partis de Séville à 237 hommes, il en rentre 18, on ne les attendait plus du tout.
Et ils sont accueillis comment ?
Eh bien ils sont accueillis en triomphateurs, mais ceux qui ont été internés ont été rendus des années après au Portugal. C'est une affaire qui se termine un peu en queue de poisson, et très malheureusement. Alors le premier tour du monde, c'est une grande joie. Un deuxième voyage est organisé sur la même route, et Elcano va d'ailleurs mourir en route dans le Pacifique au cours de ce deuxième voyage.
On est là à un moment charnière de l'histoire de la navigation.
Oui, on est là à un moment charnière parce que on est à une époque où le Portugal est totalement étiré jusqu'aux Indes. Il n'a pas les moyens d'exploiter, enfin tout ce qu'il ramène des Indes, il ne peut pas le distribuer dans l'Europe. Il a sous-traité ça aux caboteurs hollandais qui viennent à Lisbonne se servir et distribuer toutes les richesses des Indes dans l'Europe du Nord. Et puis il se trouve que la trahison des secrets de la route des Indes par un... L'archevêque de Goa a eu la mauvaise idée de prendre comme secrétaire un marin hollandais très intelligent qui va publier un livre qui s'appelle l'Itinerario, qui est une sorte de guide de voyage et de commerce et de route vers les Indes. Donc ça paraît, c'est un succès universel. Quelques cartes marines sont aussi pillées à la Casa de India. Et finalement, le secret de la route des Indes est divulgué. Et c'est le moment où les échanges d'infantes entre l'Espagne et le Portugal, qui sont traditionnels depuis très longtemps, font que Philippe II d'Espagne peut revendiquer le trône du Portugal et devient Philippe Ier du Portugal. À ce moment-là, ça brouille le Portugal avec la Hollande. Le port de Lisbonne se ferme aux Hollandais et les Hollandais prennent le parti de les servir eux-mêmes. Ils vont arriver avec tout leur savoir-faire, leur naval considérable. Ils vont s'abattre sur les Indes, s'installer en Indonésie, à Jakarta, ils fondent Batavia. Et le Portugal, son empire va disparaître en une décennie. C'est la grande époque des Anglais, des Hollandais
qui vont
devenir conquérants et qui vont remplacer les royaumes ibériques dans les terres nouvelles.
Vous reviendrez pour nous en parler, François Bellec. Ce sera probablement dans le deuxième tome de votre histoire de la navigation.
Voilà, ça sera l'objet du deuxième volume et je reviendrai avec plaisir à la même époque l'année prochaine.
Très bien, le rendez-vous est pris. Un très grand merci d'être venu nous parler de cette histoire de la navigation. Donc, premier tome paru aux éditions de Monza. Je rappelle, François Bellec, que vous êtes officier de marine, ancien président de l'Académie de marine, entre autres, et que vous avez été responsable du musée de la marine à Paris pendant de nombreuses années. Un très grand merci à vous.
Merci.